Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, merci de nous rejoindre dans Radio Foot International dans notre studio où nous parlons comme chaque jour de football. Aujourd'hui, nous évoquerons l'appel de Karim Benzema pour revêtir le maillot de l'équipe de France. Déjà 19 matchs et 1 euro sans lui parmi les Bleus. Pourtant, l'avant-centre meilleur buteur français en Ligue des Champions brille au Real Madrid à la veille de sa 3e finale européenne. Peut-il être, doit-il être sélectionné par Didier Deschamps et pourquoi serait-il rappelé en équipe nationale? Karim Benzema divise les opinions et peut-être aussi les avis autour de cette table. Mister George dans Radio Foot, George Weah a accepté de nous parler de Monaco, sa première équipe en Europe, en passe d'être championne de France, mais aussi de son lien actuel avec le PSG. Il a toujours le temps de s'intéresser au football et d'y jouer à Monrovia, alors qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Laura Flessel, l'escrimeuse ministre des Sports du nouveau gouvernement, dévoilée cet après-midi à Paris, une championne olympique, aux côtés d'un président olympique, Emmanuel Macron, supporter fanatique de l'Olympique de Marseille, et vous l'entendrez en parler. Pour l'instant, je vous présente nos invités du jour, et justement, nous avons un Olympien, un Marseillais. Bonjour Marc.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Il y a aussi Naïm Moniol à ses côtés. Bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Et puis notre camarade de SoFoot, Chérif Guémour. Bonjour Chérif.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Éric Chorin, bonjour.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors vous, êtes un spécialiste des Bleus, donc vous allez être très utile aujourd'hui dans Radio Foot.
Encore 3 matchs, c'est sérieux.
Radio Foot, c'est parti.
Le voilà, le but de Karim Benzema. Il y avait quelques sifflets qui descendaient des tribunes de l'Alliance Riviera. Il va faire taire tout le monde sur un corner frappé par Antoine Griezmann. Et il va peut-être inscrire un deuxième but. Il est parti seul. Le duel, Benzema. C'est un doublé. Ça fait 3-0. Et bien voilà la réponse de l'avant-centre de l'équipe de France. Une passe décisive sur le premier but. Et désormais 2 buts supplémentaires à sa collection. Ça fait 27.
Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur.
C'est le monde de l'Irlande.
C'est pas gentil ça.
Karim Benzema, donc vous avez entendu, ce sont ses 2 derniers buts. Il avait fait une passe décisive
vous
aussi.
Vous êtes allé
ce
dans les archives la chercher. Hein,
exactement. En fait. Ouais. France-Arménie. Non, pas trop. Allez, ne soyez pas méchant, chérif. Octobre 2015. Donc Karim Benzema lance un nouvel appel à Didier Deschamps. Peut-être une nouvelle bouteille à la mer. L'avant-centre découvert à l'Olympique lyonnais, qui évolue depuis 8 saisons avec les stars du Real Madrid, s'impatiente donc loin des Bleus. Il le dit aujourd'hui dans le quotidien L'Équipe, qui lui accorde 6 pages ce mercredi. Alors ne l'oublions pas, nous sommes à la veille de la publication de la liste des 23 convoqués en équipe de France. Et il n'y a pas que L'Équipe qui parle de Benzema, puisque d'autres journaux lui avaient consacré des articles ces derniers jours. En tout cas, lui, il avait donc disputé son dernier match en octobre 2015, le 8 octobre, en inscrivant donc ce doublé. Et il a regardé ensuite l'Euro sur un canapé, il le tweetait pour encourager ses camarades. Ce sont donc 19 matchs de Didier Deschamps sans lui, de quoi trouver le temps très long. Pourtant, les éloges pleuvent sur Karim Benzema. Les plus récents, c'était au lendemain de son exploit, parce qu'il faut l'appeler comme ça, face à l'Atlético Madrid, en demi-finale, retour de Ligue des Champions. Et là, son entraîneur, Zinedine Zidane, n'économise plus ses mots.
Il faut qu'il fasse toujours quelque chose de spécial ou de différent pour qu'on dise que c'est un grand joueur ou, d'ailleurs, qu'on soit positif avec lui. Nous, on sait, de toute façon, moi le premier, mais les joueurs aussi, et je crois que les supporters aussi qui aiment ce club et qui aiment Karim, savent l'importance qu'il a dans cette équipe. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on ne changera pas le fait que les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, et que ce soit positif ou négatif pour lui. Lui, il sait ce qu'il fait, il sait qu'il est bon, et il sait qu'il apporte beaucoup à l'équipe. Voilà. Un joueur de foot, de toute façon, c'est pas que marquer des buts. Et lui, même s'il sait marquer des buts, il sait faire autre chose, et il sait faire autre chose pour son équipe.
Alors on le sait, il est le joyau de cette équipe du Real Madrid.
L'un des joyaux.
L'un des joueurs, en tout cas de ceux qui y est depuis le plus longtemps, avec
aux côtés de Cristiano Ronaldo.
Exactement, ils sont arrivés en même temps d'ailleurs au club. Le joyeux, c'est parce qu'on dit un peu ça. Florentino Pérez a des yeux de chimène pour lui. Éric Chorin, rappelez-nous un peu le contexte. Pourquoi il ne joue plus sous le maillot des Bleus?
Bah pourquoi il joue plus, on ne sait pas vraiment, parce que rien ne s'y oppose formellement hein, sur le plan judiciaire. Il est mis en examen, on le rappelle, pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs. Ça remonte au 5 novembre 2015, donc quelques jours après, enfin un mois après le match qu'on entendait tout à l'heure, le France-Arménie et son fameux doublé. Donc c'est dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena et l'implication, elle n'a pas été encore, on n'a pas encore l'enquête.
Pas.
Le temps judiciaire n'est pas le temps sportif, donc on n'a pas encore tout. On sait juste qu'effectivement, il a été contacté par l'un de ses amis dans cette affaire, qui lui-même avait été contacté par d'autres qui avaient mis la main sur cette fameuse vidéo, qu'il en a parlé à Mathieu Valbuena. Mais là, c'est là qu'il y a un gros désaccord et qu'il y a un gros vide encore jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas la même version, visiblement, des propos qui ont été rapportés. Ce qu'on sait, c'est que ça a été notamment le cas à Clairefontaine, donc là où les Bleus se rassemblent, ce qui est une interférence quand même avec la vie de l'équipe de France qui aurait peut-être pas eu lieu d'être. Pour le reste, sinon, il pourrait jouer. Le fait d'être mis en examen, il y a présomption d'innocence, ça lui interdit pas de jouer. Après, c'est arrivé un peu avant l'Euro, et évidemment en France, dans un contexte politique assez particulier où on parlait d'exemplarité jusqu'au ministre même, à partir d'une mise en examen, il a peut-être payé un peu ça, une image un petit peu dégradée dans l'opinion publique, voire très dégradée, que la Fédération française semble avoir relativement anticipé, alors qu'au départ, il avait le soutien Karim Benzema, à la fois du sélectionnaire et du président de la Fédé.
Shérif,
Et de certains joueurs,
bien sûr. Ouais.
Est-ce qu'il a raison de plaider sa cause ainsi ?
Non. Non, parce que je crois qu'il fait une erreur. Après, il y a plusieurs niveaux. Sportivement, Karim Benzema est actuellement le meilleur attaquant français de très loin. La question ne se pose plus. Il suffit de voir son palmarès et les dernières performances récentes. À côté de ça, il y a le sélectionneur. C'est là qu'il se trompe, c'est qu'il demande des explications au sélectionneur. Un sélectionneur n'a pas à donner d'explications. C'est pas son contrat, c'est pas sa mission. Sa mission, il a juste une mission, c'est une obligation de résultat. Est-ce qu'il a des résultats ou pas ? Didier Deschamps a des résultats. C'est comme ça que c'est perçu. Il n'a pas à donner d'explications. Je finis. Quand on nomme un sélectionneur, il fait ses choix, il n'a pas à les expliciter, il n'a pas à donner d'explications. C'est lui qui décide, il est payé pour ça. Et il est aussi payé pour en répondre. Ce qu'on n'a pas connu avec Domenech, mais Domenech n'avait pas de résultat. Réclamer une explication, voilà. Oui, mais... Didier Deschamps n'est pas obligé de la lui donner, et s'il ne lui donne pas... Pour X raisons, même si dans 20 ans, Didier Deschamps rédige ses mémoires et dit bah voilà, je voulais pas de Karim Benzema tout simplement parce qu'il était mal rasé, il a le droit de le penser. Il est sélectionneur, il a pas d'explication à donner.
Sauf que c'est pas un choix sportif. En l'occurrence, Benzema demande
t'en
pas.
T'en sais rien.
Non mais écoute, Benzema n'est plus dans le groupe. C'est pas comme s'il était mis sur le banc comme ça du jour au lendemain et qu'il demandait au sélectionneur pourquoi il jouait plus. Là, on parle quand même de faits extra sportifs. C'est pour ça que l'explication, pour moi, elle se justifie doublement, que Deschamps et Le Graët, de par leur comportement, leur déclaration, ont rajouté un espèce de flou artistique un peu bizarre autour de cette affaire. Il y avait toute cette machinerie médiatico-judiciaire, il est mis en examen, il est pas mis,
ouais,
son rôle est passif, pas vraiment actif, on sait pas bien. Je rappelle que parfois, dès que Le Graët a la micro sous le pif, c'est pour dire qu'il adore Benzema, que c'est comme son fils.
Ça compte pas, Le Graët.
Qui continue l'un et l'autre à dire que sportivement, il est bon, parce que
oui, Deschamps avait même dit comment pourrait-on se passer de lui.
Mais sportivement, écoutez, Didier Deschamps est quelqu'un de très rancunier, mais c'est aussi quelqu'un de très intelligent. Vous voyez les performances de Benzema, est-ce qu'aujourd'hui, sportivement, on peut se passer de lui ? Quand bien même Benzema n'aurait jamais reproduit en bleu ce qu'il a fait en club. Moi, je pense que l'explication, elle se justifie parce que Deschamps a rajouté à l'affaire. Et ça, c'est de la mauvaise gestion.
Il a rajouté quoi ?
Il a rajouté un espèce de flou autour. C'est-à-dire en disant.
Le flou, c'est pas lui, c'est Le Graët.
Non, mais même lui. Même lui, il a rajouté un flou. L'histoire pour laquelle Deschamps ne veut plus de Benzema, c'est l'interview dans Marca, quand il dit Deschamps a cédé à des pressions d'une partie du public.
C'était pas dit comme ça. Non, ça a été détourné en France, c'était pas dit comme ça.
Exactement. Il a dit Deschamps a cédé à une partie du public.
De la France raciste.
Voilà. Il soupçonnait Didier Deschamps d'avoir cédé.
Oui, mais pas dans le contexte. La phrase a été sortie du contexte.
Deschamps, oui, mais voilà pourquoi Deschamps n'en veut plus. Là, c'est pas un choix sportif. Là-dessus, Deschamps a le droit d'appeler Benzema pour lui dire non, là, c'est pas vrai, je ne te prends pas pour ça, machin.
Sur les explications, en plus, Didier Deschamps estime, lui, les avoir données. Mais en conférence de presse, lorsqu'il présentait la liste, alors que Karim Benzema lui réclame des explications
face à face. Il n'a pas à les lui donner. S'il estime qu'il n'a pas à le faire, il ne le fait pas.
Alors, c'est bien, je fais du coaching d'entreprise, tu sais, je me déplace beaucoup. Et si vraiment j'ai quelqu'un comme toi en face de moi, je pense que je me dispute violemment. Tu ne peux pas, tu gères un groupe. Ouais. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu perds Griezmann, tu perds Gamero, tu perds Gignac, tu fais quoi?
Ah, là, ça, c'est tout
penaud. Tu prends ce que t'as entre les cuisses, tu le rentres bien profond et tu dis, ah, mais, allô, Karim? Je suis désolé, il faut gérer un groupe aujourd'hui. C'est la référence, qu'on le veuille ou non. C'est la référence. Donc, on doit donner des explications. J'ai joué avec Deschamps, je le connais par cœur. C'est un mec qui a une grande gueule, qui est capable, très terre à terre, très pragmatique. Tu dois appeler Benzema pour le respect du joueur. Exactement. Et tu lui dis, mon garçon, t'as fait une connerie, je te supporte pas. Tu reviens en France, il y aura un problème. T'as sorti ça. Mais tu lui dis, lui, c'est un appel au secours. Et c'est bien, c'est intéressant parce que je pensais vraiment que la Dèche, moi, il appelait. Là, il dit, ben non, j'ai toujours pas de... Donc, il est en droit aujourd'hui avec, mais il est en droit de demander ce genre de choses. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu dois gérer les Gignac. Il faut gérer tout le monde. Les Lacazette. Tu prends pas Lacazette. Ok, mais tu l'appelles, mon garçon. Tu dois gérer un groupe. T'as une vie de groupe. Ok, Deschamps, c'est l'homme le plus important et la star de l'équipe, on le sait. Il a des agneaux autour de lui, il veut que ça, on le sait.
Entre autres,
mais
ouais.
Tu peux, mais bien sûr.
Mais il a le droit, c'est son coaching. Ça,
ouais. Il a le droit. Non, c'est pas, mais c'est pas un coaching gagnant. Un jour ou l'autre, tu vas devoir ravaler un petit peu ta fierté et tu dois lui donner des invitations. C'est pas n'importe qui, c'est pas Mbappé, c'est pas. Je suis désolé, c'est la référence. Tu dois l'appeler et tu lui dis, voilà Karim, ce qui se passe. Tu prends un avion, tu vas le voir à Madrid ou tu le fais venir à Cassis, tu parles avec lui. Il se passe ça, ça, ça et ça. Voilà pourquoi. Parce que là, c'est un cri de détresse, qu'on le veuille ou non. Après, moi, je suis pas pour Benzema ou pas. C'est pas grave, c'est un joueur.
Pareil pour moi.
Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je pense qu'on lui doit quand même des explications pour cette histoire qui aujourd'hui n'est toujours pas traitée et on ne sait pas. Ça peut aboutir d'un non-lieu et ça va perturber tout le monde.
Par contre, quand je disais qu'un sélectionneur, il a d'abord une obligation de résultat et ensuite d'assumer tous les choix qu'il fait, le jour où il se retrouvera sans attaquant, là, il devra manger son chapeau. Je suis d'accord avec toi.
Mais non, mais c'est pas. C'est trop tard.
C'est fini. Mais là où par contre, Benzema, pour moi, a tort de faire ça, c'est que depuis quelques semaines, il multiplie les opérations de communication dans différents médias, alors que tout le monde sait que lui, son agent et les médias, c'est la guerre ouverte. Et là, je pense qu'il devrait faire attention. Alors là, c'était dans l'équipe, il y a quelques temps, c'était dans une radio. Il devrait arrêter comme ça de se justifier, de dire partout, j'attends des explications, parce que je pense qu'à un moment donné, ça va se retourner contre lui. Il fait trop de connivence avec les médias alors qu'on sait tous que lui et son agent peuvent pas les blairer, qu'ils en ont même tapé certains.
Naïm, tu sais très bien que quoi qu'il arrive, quand tu donnes pas à manger à la presse, on te tape dessus. Mais regarde, il poste des photos d'Instagram, qu'on le veuille ou non, elles sont c'est hors contexte. Mais quand c'est des basketteurs américains ou des footballeurs américains, là on te dit oh mais c'est magnifique et pourquoi lui on le désigne. Attention, je suis pas l'avocat de Benzema. Je te dis franchement, mais c'est juste qu'il y a un traitement pour lui, on l'a mis en place.
Mais je suis tout à fait d'accord. Benzema, tuer, qui donne à manger ou qui donne pas à manger aux médias, il s'en prend plein la gueule. Donc non, mais pour le coup,
bien sûr.
Et ça fait des années que lui et son agent se battent, même parfois au sens propre, avec les journalistes, parce qu'ils peuvent pas se blairer. Là, je pense qu'il fait pour moi une erreur de communication.
Alors parlons de Benzema sur le plan sportif. Doit-il être appelé en équipe de France pour le bien de l'équipe ou pour le bien des résultats? Écoutons quelqu'un qui a pris sa défense hier parce qu'on lui a posé la question. Il s'agit de Georges Weah, que vous entendrez tout à l'heure, l'ancien international libérien, ancien numéro 9 surtout. Alors entre numéro 9, on se comprend, et écoutez-le parler de Karim Benzema.
Je sais pas qu'est-ce que les gens ils pensent de Benzema. Pour moi, c'est un joueur complet. Très intelligent, très humble et collectif. Et c'est quelqu'un de très bien. Moi, j'aime. Si je dis aujourd'hui je suis fan de Benzema, ils vont pas croire. Mais mes amis, ils savent. Quand Real Madrid joue, moi, mon joueur, c'est Benzema. Mais je crois qu'il joue dans une position pour aider les autres. Quand il a commencé dans son position comme un attaquant, il marquait le but. Les autres, ils ne sont pas très forts que Benzema. Mais ils jouent et ils marquent. Mais Benzema, il fait marquer. Et moi, peut-être, je me dis, je vais supplier pour Benzema. Toutes les choses qu'il a fait pour la sélection française. Je crois que Benzema a mérité pour retourner dans la sélection française. Il faut discuter. Il faut parler avec lui. C'est très important. Mais c'est un grand joueur, c'est un bon joueur.
Alors, un grand
discuter,
joueur.
Il finit par discuter.
Hein? Et après, avec lui. Une fois qu'il aura son explication, est-ce qu'il sera
mais
plus
au moins
avancé?
Mais t'embêtes plus, c'est bon, au moins tu le sais.
Bah,
au moins tu le sais.
Peut-être qu'il saura qu'il
sera. Après, que Deschamps ait une explication avec Benzema, ça veut pas dire que Deschamps doit baisser sa culotte et dire c'est bon, tu reviens. Deschamps, il peut très bien aller le voir pour lui dire j'ai pas aimé ton interview dans Marca, tu m'as sali, on a tagué ma maison, j'ai eu des problèmes, je ne veux plus te voir, basta. Il peut lui dire ça, c'est pas obligatoirement, il va le reprendre.
Il peut ne pas lui dire aussi.
Mais au moins, excuse-moi, il le dit d'ailleurs dans l'interview.
Mais le monde du sport, il est impitoyable. Moi, je me rappelle pas non plus que Aragonès soit allé voir Torres avant l'Euro 2008 pour lui donner des explications. Il l'a pas pris. Et il avait toute l'Espagne contre lui. Ça arrive souvent, mais dans n'importe quel sport, si on commence vraiment à vraiment regarder dans tous les sports, dans le monde entier, y compris les grands sports professionnels, T'as les entraîneurs qui donnent jamais des
sauf que c'était pour des critères sportifs certainement.
Alors on entend
certainement,
aussi,
je sais pas, il lui a pas parlé.
Ce coup-là, oui, voilà. C'était sportif.
Alors que là, quand on parle de Deschamps et Benzema, on est que dans l'extra sportif.
On entend Georges Weah dire vu ses résultats dans la sélection. Alors là, on se dit dans la sélection, c'est vrai que il est très très bon avec le Real Madrid. C'est peut-être ça aussi le bémol qu'on met parfois ou que le public met aussi parfois Marc Libra sur Karim Benzema, c'est-à-dire en équipe de France, c'est moins bien. Alors il s'en justifie d'ailleurs aujourd'hui hein, dans l'équipe.
Ouais, après bon, c'est vrai qu'il a vécu une période de disette assez impressionnante et encore une fois, je pense que les médias ont été très durs avec lui.
Il comptait les minutes,
Les minutes. Après, qu'on le veuille ou non. On l'a encore vu parce que la demi-finale, qui certes il n'a pas forcément marqué, mais il restera dans l'histoire avec ce débordement, ce crochet de trois joueurs. C'est pas forcément ça.
Là,
c'est
récemment, là où, hein, contre l'Atlético.
Récemment, où c'est sûr il n'a pas marqué sur ce match-là. Il y a pas de stats, il y a pas.
Il est même pas passe décisif parce qu'il est l'avant-dernier.
Non, c'est l'avant-passe.
C'est
mais
incroyable.
C'est l'important. C'est la raison. Au basket, c'est intéressant, mais dans le foot aujourd'hui, on se réfère à des stats. Ah ben lui, il a marqué tant de buts en tant de secondes. Qu'est-ce que c'est bien un ratio de 0,80. Enfin, à l'arrivée, il faut voir l'importance qu'il a dans le jeu, les efforts qu'il est capable de faire, appel contre appel. Quand le veuille ou non, il dit « je suis pas au service de Cristiano Ronaldo », un petit peu, et c'est que mieux. Moi, j'étais au service de grands joueurs, et je suis ravi d'avoir joué à leur côté. Et quoi qu'il arrive de servir Cristiano Ronaldo, à l'arrivée, il se retrouve en finale avec des champions. Et c'est là pour la troisième fois. Et je crois que c'est là vraiment où il a quand même progressé énormément, c'est que il a étoffé son jeu. Il a maintenant 29 ans. Il continue de progresser. Donc Cristiano Ronaldo est passé sur un côté, il peut moins dribbler, donc il a adapté son jeu, lui a adapté son jeu. Là, on parle pas forcément de Benzema. Rappelez-vous, en début de saison, on dit Morata c'est le meilleur, il faut Benzema dehors à l'arrivée. S'il y a un qui tient la route,
c'est un attaquant de plus qu'il a remis sur les bancs. Il y en a eu un paquet depuis que Benzema est arrivé.
Vas-y. En tout cas, Naïm, une chose, il a été moins bon avec l'équipe de France, mais peut-être que l'équipe de France, c'était un moment où elle était moins bonne aussi, parce que c'était un des pires moments.
Il y a eu des joueurs de l'équipe de France, pour l'essentiel de la carrière de Benzema, étaient moins forts que ceux du Real.
Après, lui, il prétend que maintenant, avec Antoine Griezmann, il s'entend mieux et que d'ailleurs, ça devenait mieux.
Un joueur, Benzema, demain, revient en équipe de France, joue en pointe aux côtés de Griezmann, aux côtés d'Mbappé, aux côtés de Dembélé, il ne sera que meilleur. Ça veut pas dire qu'il sera plus efficace, et là, on peut revenir au stade de
mort. T'en es sûr, Naïm, de ça?
Est-ce que tu peux me prouver qu'il sera moins fort?
Ce dont on n'est pas sûr, c'est que l'équipe de France soit meilleure avec lui que sans lui. Elle a été jusqu'en finale de l'Euro sans lui. Griezmann s'est imposé, alors qu'il avait peut-être plus de mal à y parvenir quand Benzema était en équipe. C'était plutôt le joueur qui rentrait en jeu. Aujourd'hui, c'est bouleversé tout l'équilibre d'une équipe, peut-être de rappeler Karim Benzema.
D'abord, il n'a peut-être pas les mêmes stats, mais c'est quand même quelqu'un qui pèse dans le jeu, on vient de le dire. Deuxièmement, je pense que quand t'es défenseur de la Suède, du Luxembourg, de je sais pas qui, de la Biélorussie, que tu te retrouves devant Benzema, t'es quand même un peu plus flippé que quand tu te retrouves devant Gignac ou Gamero.
Donc tu peux mieux jouer aussi hein, quand t'es.
Oui,
quand
non, mais
tu
je pense que c'est quelqu'un qui a une aura, il a une aura, d'accord, mais il a une aura internationale, il a une aura internationale qui pèse dans l'équipe. Et aujourd'hui, moi, je vais prendre un autre cas de figure. Est-ce qu'aujourd'hui, Pogba est indispensable en équipe de France dans le jeu? Bah pourtant, il est là, il joue.
Pour Deschamps, oui.
Voilà. Pourtant, il est là, il joue. Donc voilà, me dire que l'équipe de France ne serait pas plus forte, peut-être. Est-ce qu'elle serait moins forte? Non, je crois pas.
Pas sûr. Mais ça, c'est sûr.
Chérif, doit-il revenir? Manque-t-il à l'équipe de France? Répondez-moi, oui ou non.
C'est une question.
On a 20 secondes.
Oui.
Les autres joueurs.
Oui, j'ai envie de voir.
Ils veulent tous jouer avec.
Pas l'unanimité, mais.
Je l'ai
rajouté tout à l'heure que les joueurs aussi, beaucoup de joueurs souhaitaient le revoir, mais pas tous.
En tout cas, il y a 3 matchs hein, des Bleus finalement en ce début du mois de juin. C'est pour ça que Didier Deschamps publie sa liste demain. 2 amicaux, Paraguay-Angleterre, les 2 et 13 juin. Et puis un match qui compte pour les éliminatoires du Mondial 2018 la Suède,
entre
le 9
juin. Déplacements en Suède.
Bon, ben voilà. C'est la fin de cette première partie de Radio Foot International. Peut-être avez-vous un avis, vous, sur la venue ou non de Karim Benzema dans cette équipe de France. On verra demain quelle sera la décision de Didier Deschamps. On se retrouve dans la deuxième partie et on va retrouver Mr. George.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International, toujours sur RFI, toujours avec Chérif Guémour, Naïm Moniol, avec Marc Libra.
Heureusement qu'ils n'ont pas entendu à la... ce qu'on a dit, parce qu'on a, on a continué le débat.
On a continué. Hein.
Une précision, tout à l'heure j'ai parlé de Torres à l'Euro 2008, c'était Raoul hein, que Aragonès n'avait pas pris.
Non, ouais. Oh, et ben, voilà. Eric Chorin, allez, vous avez une petite phrase un peu piquante là.
Bah oui, Mathieu, il veut
pour
répondre.
Terminer le sujet.
Mathieu Valbuena, puisque Karim Benzema l'a pas mal mis en cause hein, dans cet entretien.
Non.
Donc il a tweeté, la calomnie est l'arme de l'impuissant, c'est affligeant. Avec trois points d'exclamation, la vérité c'est la justice qui la rétablira, c'est ce que dit oui. Mathieu Valbuena.
Elle et se fait attendre cette justice. Quand
voilà, on
Annie,
attend.
On parle de tweet, l'équipe de France, le tweet de la Fédé a salué Varane pour la finale, ils n'ont pas mis Benzema. C'est tout petit.
Ça c'est pareil.
Qui reste international.
C'est tout petit et qui est international et sélectionnable. C'est tout petit. Ça montre, c'est tout petit.
Retiré, non, c'est Mathieu qui est
oui,
tout petit.
Il est retiré de toutes les photos.
Je pense.
Il parle jamais de ça. Là, mais la fédération aussi est à mettre en cause le rétropédalage de Legrette et le comportement général. Retirer ses stats, ne pas parler de lui sur le site de la Fédé, de machin, c'est scandaleux.
Les photos.
C'est un paria.
C'est tout petit.
C'est pas un paria. C'est pas un paria.
Exactement.
C'est pas 80 sélections. Excuse-moi.
Le sujet est clos et nous allons eh bien écouter un grand... Non, il est clos pour aujourd'hui. Parce
on en parle demain peut-être.
Oui, évidemment, on risque de rebondir sur ce sujet, messieurs. Mais pour l'instant, je vous propose eh bien d'écouter ou de nous souvenir d'un grand monsieur du football.
George, on a écarté avec Nouma, George encore, il est passé. Il est passé.
Oh, il est passé.
Oh, quel but. Il est passé.
Oh, il est passé. Quel
oh oui.
Quel festival, George Weah.
Ah, ça c'est un festival.
Ça ne pouvait être que lui. Pour la première fois de son histoire, le Ballon d'Or de France Football n'était pas destiné aux meilleurs joueurs européens, mais aux meilleurs joueurs d'Europe. Nuance. Georges Weah n'est pas européen, mais ça ne l'empêche pas d'être le meilleur chez nous. Gérard Hernault, le patron de France Football, a consacré en fait l'évidence.
Bien soin de ce magnifique objet.
Grande George, Mister George, hein, évidemment, c'est George Weah. Vous vous en souvenez tous de ses buts.
Le premier, c'est mon Bayern, et le deuxième, c'est avec
toute mon enfance.
Alors j'aurais le premier, c'est sous le maillot du PSG.
J'ai joué contre moi. Il était impressionnant.
Ah, c'est un joueur.
1m84.
Il était bon partout. Il a été bon partout. Il a joué une finale de Coupe d'Europe avec Monaco. Il a gagné trois Coupes de France. On s'en rappelle peu, mais il a joué à Marseille également en 2000-2001. C'était en fin de carrière.
Une
mais
année.
C'est tellement fort ce joueur. Tu sais, les attaquants des années 90. C'est tellement fort.
C'est quoi la différence entre Ronaldo et Weah? Il y en a un qui est brésilien, l'autre qui est libérien. Elle est juste là, la différence. Les deux buts dont on a parlé, c'est des buts ronaldesques. Ouais, sauf que voilà, Ronaldo est brésilien.
Et rendez-vous compte, Marc, vous avez joué contre un futur président, peut-être.
Ouais, et j'ai été invité même à son jubilé, qui était à Marseille en 2006 aussi.
Il va te mettre au gouvernement ou pas?
C'est prévu.
j'étais
pas loin de celui de Manu, là, mais ouais, du coup, je suis passé à travers, là. Zut!
Alors, on va l'écouter, Georges Weah, parce que justement, à quelques heures, sans doute, peut-être, du sacre de Monaco, hein, comme champion de France, eh bien, il nous a parlé de Monaco, aussi de ses liens actuels avec le PSG. Écoutons Mister George. Georges Weah, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes candidat à l'élection présidentielle au Libéria. Est-ce que vous avez le temps encore de vous intéresser au football?
Je regarde le football. Tu sais, le football, on peut pas lâcher le football comme ça, c'est pas ça, c'est quelque part j'avais le passion pour le football. Je peux pas laisser le football comme ça. Je regarde au moins, c'est le mieux que je peux faire. Et je regarde beaucoup de football. Je joue encore, mais je joue à 50 ans. Je fais mon mieux pour jouer.
Ah ouais, vous continuez, vous avez le
ouais,
temps.
Ouais, je joue tous les samedis et dimanches. Samedi matin, dimanche matin. Ouais, ouais.
Avec des jeunes, avec des gens de votre âge.
Ouais. on peut pas faire des jeunes. Mais tu sais, des gens qui sont pas joués. Ils sont toujours là à la télé, les gars de football. Et nous, on a joué. C'est normal, on va regarder. Et je regarde encore de la télé.
Alors, Monaco va être champion de France. Hein. Il y a plus beaucoup de suspense, puisque mercredi, ils ont un match. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette équipe, je dirais, enfin championne de France?
Bon, j'espère...
Est-ce que cette équipe de Monaco, vous pensez qu'elle mérite d'être championne de France?
Oui, ils ont mérité. Mais un bon message à Monaco... Ce parcours, ça a été très difficile pour nous. On est arrivé jusqu'à gagner le championnat. on est toujours deuxième derrière Marseille. S'ils ne sont pas encore arrivés pour gagner ce championnat, il y a deux matchs, il faut tout faire pour gagner. Parce que Paris, ce n'est pas une petite équipe. Paris peut gagner n'importe quel moment. Mais Monaco, moi, je suis fier. C'est parce que ce pays m'a beaucoup donné. Je peux dire ça mille fois. C'est un pays qui a gardé de culture, leur culture de recrutement. Et aujourd'hui, Monaco, beaucoup de monde, ils ont été attendus. Monaco a fini la Champions League. Mais quand j'étais à Monaco, ce n'était pas Champions League, mais c'était le club champion. Monaco aussi a allé à la finale. On a fait battu par Walter Brown, allemand.
On a perdu
2-0. Voilà, Monaco a une culture de cette compétition. Parce que chaque fois, on va à quart de finale ou demi-finale.
Mais là, ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas Monaco.
Ça fait longtemps.
À ce niveau.
Mais je dis ça parce que Monaco, c'est un grand club. Ils ont gardé la culture, le recrutement. Ils jouent bien comme avant. Et je crois, à partir d'aujourd'hui, on peut être fier à Monaco. Moi, je suis fier.
Quels sont les joueurs que vous remarquez dans cet effectif de Monaco?
Mais tu sais, aujourd'hui, les jeunes qui font bien, Mbappé. Babé, je me souviens comme il était petit, Youssouf Fofana. Il courait tout dans le terrain comme ça. Mais il fait bien, il fait bien. Et l'équipe joue. Comme je dis, je ne peux pas citer le nom un par un. Mais ensemble, Monaco est une bonne équipe.
Bon, mais vous avez quand même remarqué Mbappé.
Oui.
Parce qu'il a 18 ans?
Non, ce n'est pas parce qu'il a 18 ans. Chaque fois qu'il se met à la télé, c'est le seul numéro qui est devant la télé. Parce qu'il est toujours dans l'action. Ah, mais c'est normal, on voit. Mais je crois, ensemble, Monaco, ils sont une bonne équipe.
Le Paris Saint-Germain n'est pas champion cette année, apparemment. En tout cas, il a été éliminé aussi beaucoup plus tôt de la Ligue des Champions. Est-ce que ça vous a surpris, la contre-performance du Paris Saint-Germain cette année?
Non, mais tu sais, le football, c'est comme ça. Des fois, tu fais une petite erreur, tu es deuxième. Même on va partir à la Champions League. Paris qui gagne 4-0 contre un grand qui vient Barcelone. Il va là-bas, il perd.
6-1.
Il perd. C'est pas 6-1. C'est pas. C'est, le football, il y a des choses qui passent parce que le victoire, c'est pas impossible. Mais il faut travailler dessus. Mais je crois, à partir de là, beaucoup de joueurs. Ils ont perdu leur tête, ils sont pas contents, parce que c'est un choc. S'ils gagnent ce match, ils sont presque finis. Mais Paris, c'est toujours Paris Saint-Germain. Ils sont une très grande équipe. Cette année, ils vont pas être champions, mais c'est une équipe où on peut être fier, on peut respecter. Les joueurs, ils sont là, ils sont bien, ils sont bons. Cavani est venu meilleur joueur et meilleur buteur de championnat.
La
Ligue 1, il a mérité. Parce que c'est pas seulement un buteur, mais c'est un joueur très correct, très discipliné.
Alors, vous avez gardé un lien particulier avec le Paris Saint-Germain?
Non, mais tu sais, j'ai toujours gardé mes contacts avec le club que je joue. Parce que tu sais, je n'étais pas seulement footballeur. Tu sais, j'étais aimé par tout le monde. On ne peut pas oublier les gens qui ont fait bien chose pour toi. Parce que moi, n'importe où je pars, les gens ils m'ont pris comme un enfant.
Mais c'est pour ça que votre fils a choisi de venir au centre de formation du Paris Saint-Germain?
Non,
Timothy.
Non, si Timothy a choisi Paris Saint-Germain ou Paris Saint-Germain a choisi Timothy, je crois que c'est base de son travail. Parce que on était parti à Chelsea. Il a fait fabuleux entraînement, mais Chelsea n'a pas pris. Et j'ai tenté encore dans un autre club. J'ai joué ici, Paris Saint-Germain, et le entraîneur. Il aime tout mettre, et il travaille bien et ils sont gardés.
Est-ce qu'il joue au même poste que son papa?
On peut dire oui, parce qu'il joue partout. Un jour, il joue à numéro 9, il est droit, à gauche, il fait comme le papa. Parce que moi, j'ai joué tous les postes sur le terrain, même gardien. Je suis un gardien très fort.
Il est déjà international aussi, votre enfant?
Oui, ils sont bien qualifiés là, dans le moins 17 mondial. Il a fait bon match. Il a marqué.
Il joue pour quelle nation ?
Il joue pour les États-Unis. Il ne faut pas me demander pourquoi pas en France, s'il vous plaît.
Ni en France, ni pour le Libéria.
Il ne faut pas me demander parce que je ne veux pas répondre pour Timothée. Timothée, il a 17 ans. Pourquoi il a choisi les États-Unis, pas la France ? Il ne faut pas me demander. Mais je crois, si tu me demandes, je dis, il a grandi aux États-Unis, il est avec l'équipe américaine, et je crois, c'est normal. C'est normal, c'est son culture. Il joue avec ses amis. Il a grandi ensemble. Je crois, on peut pas faire autrement. Mais tu sais, nous, on est les parents. On va tout aider pour arriver. Parce que notre but, c'est Paris Saint-Germain. Et son carrière. On veut une bonne carrière. Mais s'il y avait les États-Unis, ou avec la France, ou avec le Libéria, ou le Jamaïque, ça va venir. Et nous, on fait tout pour lui. Il travaille bien, il respecte les entraîneurs, ses coéquipiers, parce que je suis venu par Cameroun, quitté au Libéria. Personne ne me connaît pas. Je me suis battu, j'étais le premier sur le terrain, j'étais le dernier sur le terrain. Et j'étais discipliné, j'ai humble, j'ai respecté mes amis. Cette vie-là, si tu veux réaliser, il faut continuer à servir. Parce qu'il a son style. Il faut mieux laisser son style. Peut-être son style, c'est mieux que moi. Peut-être avec son style.
Il est meilleur
style,
que vous?
À 17 ans, comme il joue là, il est meilleur que moi. Ouais. Et peut-être il va venir plus fort que moi. Et peut-être c'est le futur ballon d'or. Pourquoi pas?
Ben oui, parce que des ballons d'or africains, il n'y a eu que vous. En tant que joueur africain, qui vous verriez prochainement être ballon d'or, joueur africain récompensé?
Non, mais ça va venir, parce que il y a le Ronaldo qui dormit encore, il y a le Messi, ils sont là, et on peut pas commencer à chercher des choses où et en pas, tu comprends? Mais j'espère pour le joueur africain, mais ça va venir. Même avant moi, il y avait les plus grands joueurs, Cédric Keïta, Roger Miller, Bergomi, Roger Maja, tout ça là, ils sont été là.
Mais
parce que on pouvait pas rentrer dans la course, tu comprends? Mais je crois que j'étais là au bon moment. Quand j'ai commencé à dominer, c'est là ils ont dit on peut rentrer dans la course. Et j'ai gagné le premier ballon d'or. C'est pourquoi j'ai dit, ce ballon d'or, c'est pas pour moi, c'est pour tous les joueurs qui pouvaient gagner.
La finale de la Ligue des Champions va opposer donc le Real Madrid à la Juventus de Turin. Vous voyez un match compliqué, vous voyez un match où la Juventus va être évidemment vainqueur grâce à sa défense ou...
Non, mais je crois que l'équipe Juventus, Turin, ils sont solides. Mais c'est le football. Parce que les autres, Madrid, ils ont beaucoup de joueurs qui sont de qualité pour changer le match à tout le moment. Ça va être un match très difficile. De l'autre côté, c'est offensif. Mais on va avoir un très grand match le 3 juin. Mais j'espère mon équipe y gagne. Juventus Turin.
Voilà son équipe, la Juventus de Turin, qu'il a dans le cœur. Georges Weah, même si il admire beaucoup côté madrilène Karim Benzema.
À lui aussi.
Ah, mais tous autour de la table, on est tous d'accord avec toi. C'est sportivement, il n'y a pas de.
Bon, en tout cas, Georges Weah, il est toujours. Vous avez entendu, hein, il regarde le foot, il joue au foot à Monrovia tous les week-ends avec des copains de son âge, dit-il, hein, quand même, Marc.
Ben ouais, mais c'est important. Moi aussi, je joue avec des copains de mon âge.
Parce qu'il s'entretient quand même, Georges Weah, du côté de Monrovia. Et en tout cas, eh bien, il joue toujours au football.
Moi, allez. C'est pas à Monrovia.
Ouais. Non, mais je pense que.
C'est derrière Boulogne-Billancourt, des fois, avec des copains.
Après, dépendant du résultat de l'élection, peut-être qu'il viendra jouer avec vous, on lui dira. Le nouveau gouvernement a été annoncé il y a quelques heures sur le perron de l'Élysée ici à Paris. Et
enfin,
le portefeuille. Ah, c'était assez ponctuel, hein, bon, 13h. Hein, et 15h, ils avaient dit 15h, c'était 15h.
Ils sont juste trompés de jour, mais.
Et
15h.
Et le portefeuille des sports, eh bien, a été attribué à une femme. C'est même une grande athlète, une grande championne. C'est l'escrimeuse Laura Flessel. Éric Chorin, parlez-nous d'elle.
La guêpe.
La guêpe, parce que apparemment, oui. Non, mais on s'en souvient. Moi, je me souviens d'Atlanta en 96. Bah, elle avait quand même une prédilection pour les touches au pied avec son épée. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelée la guêpe. Hein. Moi, je me demandais si c'est parce qu'elle butinait ou parce qu'elle était un peu énervée. Non, c'est parce que.
En jaune et noir.
Elle a 45 ans. Elle est née à Pointe-à-Pitre. Elle a été double championne olympique individuelle et par équipe en 96. Mais elle a aussi été 6 fois championne du monde. C'est une liste de médailles européennes, mondiales, olympiques et énorme. Elle a participé à 5 Jeux Olympiques. Les derniers, c'était en 2012 à Londres et elle était porte-drapeau à cette occasion, déjà assez investie dans le milieu sportif et extra-sportif, hein, pas politique à ce moment-là, mais elle a aussi participé à pas mal depuis, à pas mal d'organismes. Elle a été ambassadrice de l'UNESCO, mais elle a aussi été présidente du Comité National Permanent de Lutte Contre les Discriminations. C'était en 2011. C'était Chantal Jouanneau qui l'avait nommée à l'époque. Donc là, c'était
autre
plutôt à droite. Voilà. Ensuite, elle a été membre du Conseil économique et social et environnemental. C'est un organisme dont elle n'est plus membre, c'était jusqu'en 2015. Elle a été ensuite élue membre du Conseil national du sport et présidente de la commission éthique valeurs du sport de cette organisation. Donc elle est déjà engagée pas mal dans les institutions depuis quelques années. Elle a aussi été en mai 2007, là, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, signataire avec une soixantaine de sportifs français d'un appel à voter Emmanuel Macron au deuxième tour. Elle a ensuite fait un tweet justement pour l'encourager. Bah, ça y est, les ministres.
Ça a payé. Un champion olympique, quelqu'un qui connaît bien la compétition et le sport.
C'est toujours mieux d'avoir un ancien sportif au sport. C'est quelqu'un qui connaît, comme tu dis, les institutions, la compétition, sur la manière dont établir une politique pour les jeunes, machin. C'est toujours mieux, oui, c'est très très bien. Puis en plus, elle est également engagée dans Paris 2024. Je crois qu'elle a un
elle
rôle.
Elle est engagée dans Paris 2024.
Elle est championne olympique. Ouais.
Non, c'est très bien. Alors après, ça veut pas dire que ça va être une grande ministre, mais sur son profil, en tout cas, c'est plus que justifié. On a parfois des ministres des sports qui, à mon avis, jamais tapé dans un ballon ou dans une raquette. Bon, elle, c'est pas le cas.
Ouais. C'est pas grave.
Non,
il y a deux choses. Quand on est ministre des sports, il y a un aspect sportif, que ce soit le sport professionnel et amateur, tous les sports. Et après, il y a le côté éducatif, parce que c'est aussi ça. Quand on est ministre des sports, on est en charge aussi de l'éducation dans le sport à l'école, ce genre de choses. Parce qu'elle a les compétences, on verra. Mais de toute façon, je ne veux pas de mauvais procès, mais ça fait partie aussi du job quand on est ministre.
Sans parler de toute la charge administrative, bien sûr. Marc.
Non, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on l'a sûrement tous croisé sur des événements. C'est quelqu'un de très appréciable. Et puis, franchement, c'est bien pour une fois qu'on a quelqu'un. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour dire, mais c'est vrai que d'avoir touché à tous les niveaux, de s'être déplacé, d'avoir fait des grandes compétitions, champion du monde, c'est pas n'importe qui. Je crois que c'est toujours intéressant. Il y a peut-être un message différent qui passe au niveau des gamins. On explique, aujourd'hui, c'est facile, on va sur Internet. Cette personne, ce ministre, a fait ça, ça et ça. Enfin, c'est tout bête, mais c'est important. C'est pas n'importe qui. Donc,
c'est la première fois depuis l'amour qu'il y a un ancien sportif qui était déjà dans
l'escrime. Ancien escrimeur aussi.
Parce que sans pareil faire de procès ou juger quoi que ce soit, ça a quand même plus de gueule d'avoir Laura Flessel que Najat Belkacem, par exemple.
Disons que le palmarès est différent.
Sport, oui, brièvement. Préparer l'euro, ouais, tu te rappelles?
Oui, Ramayad, c'était pas très brillant non plus dans le précédent, lors du précédent quinquennat.
Après, ça doit être très dur d'être ministre, moi je juge pas, mais.
Mais tous les anciens sportifs n'ont pas non plus été de grands ministres des sports. Alain Calma n'a pas laissé un souvenir impérissable. Roger Bambuck non plus. Antillet également. Et il y en a eu quelques-uns. David Douillet s'est plus partagé. Évidemment, Guy Drut a fait une plus belle carrière, bien évidemment. Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué.
Écoutez, quelque chose d'assez amusant. Une fois, elle s'est retrouvée face à une ministre qui l'a confondue avec quelqu'un d'autre.
Quelle est la dernière personne à vous avoir prise pour une judokate?
Je m'en souviens pas.
Oh non, ça ne voulait pas faire de peine à la ministre. Valérie Fournéon qui vous a pris pour une judokate.
Oui, mais elle s'est trompée.
24 médailles internationales et la ministre des Sports qui vous appelle, qui vous prend pour une judokate.
Elle savait pertinemment, sauf que c'est un lapsus, c'est tout. Mais je lui en veux pas.
Bon ben voilà, parce que peut-être que maintenant elle fera des lapsus et que du coup elle préfère être gentille.
Valérie Fournéron a fait beaucoup de lapsus, mais elle était meilleure ministre que oratrice.
Et pourtant c'était une ancienne sportive aussi du côté du handball. En tout cas, cette sportive Laura Flessel, eh bien, elle aime aussi le football. Écoutons un extrait d'une émission Culture Foot, c'était sur la chaîne 11 EO de Canal Sat. Et Laura Flessel, écoutons, parce que c'était en 2014. Hein. Son papa a été entraîneur de foot et elle a le cœur qui bat pour les footballeuses.
Je suis pour, en fait, la pratique, je dirais, pour tout le monde. Le sport pour tous. Et ça passe aussi par une implication des anciens vers les nouveaux. Et c'est vrai qu'il y a on est souvent suivi par les médias, donc c'est bien aussi de leur montrer que, voilà, on a des petites copines qui sont sur les terrains et qui font du foot. Le jeu, il est rapide. Les passes sont pas lentes. Les filles, elles ont faim parce qu'elles ont un temps d'audience aussi moindre. Donc elles ont à prouver que c'est plus un jeu calé sur un jeu masculin. Elles ont leur touche de fabrication. Et ce sont des équipes qui ont montré, comme l'Olympique Lyonnais, que c'était un jeu qui était empreint de professionnalisme, d'esthétisme, de rapidité. Et je pense que c'est comme dans tout, on a besoin d'un coup de pouce. Et j'ai eu ce coup de pouce lorsque j'ai commencé, parce que c'est un petit sport ou peu médiatique. Et finalement, les valeurs, on les retrouve et on les colporte après. Donc voilà, j'ai eu mon coup de pouce. Et maintenant, je vais encourager, et puis j'aime bien ça, quoi.
Elle va encourager peut-être beaucoup d'ailleurs, parce que si elle reste ministre, eh bien en 2019, la France accueille la Coupe du Monde féminine.
Ça reste prévu, ouais.
Ouais, donc elle sera aux premières loges. Une ministre donc, eh bien, d'un chef d'État, alors jeune et dynamique, hein, on l'a beaucoup dit, entendu, lu ces derniers mois, mais Emmanuel Macron, peut-être que ça vous touche, Marc Libra,
absolument,
sans doute,
absolument.
Une qualité en plus,
absolument.
Hein, aux yeux des amoureux du football et de certains supporters, vous allez le comprendre avec ce petit montage que nous a préparé Guillaume Ploquin.
Bonjour à toutes et tous. Il n'y a pas de campagne présidentielle qui se tienne sans Marseille et il n'y a pas de victoire qui s'envisage sans les Marseillais. Ça, c'est un beau cadeau. C'est le maillot de qui ?
Payet.
Bravo. Je supporte l'Olympique de Marseille. Voilà.
Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est bien. Voilà, c'est bien. Ça veut dire qu'il aime le foot déjà. Après qu'il soit le supporter de l'Olympique de Marseille, c'est un plus.
Oh merde, deuxième fois, putain.
Quoi donc ?
À Monaco qui a battu l'OM.
Attends, on s'en fout.
Vous allez le mettre un jour ?
Je vais le mettre pour courir. J'essaie de courir et de faire du tennis aussi, mais pas de foot.
Oh non.
Bah non, j'en fais plus parce que j'en ai fait. Non, mais c'est pas facile. Faut déjà trouver les 10 autres pour jouer. Quand même, le mieux, c'est de jouer à deux équipes.
Un dernier mot, le match OM-Dijon n'est pas une bonne excuse. Il est à 17h et j'y serai également présent. Après.
Voilà, sur du vent d'haleine. Alors,
ce n'est pas un montage.
Non.
Absolument pas.
C'est pas un montage. En tout cas, tout a été dit par Emmanuel Macron durant la campagne, vu qu'il a été beaucoup filmé, qu'il y avait beaucoup de micros autour de lui. Alors, on l'entend dans une école. Et d'ailleurs, les enfants, eh bien, ils sont d'ici les Moulineaux. C'est l'école maternelle et primaire Louise Michel, où il était allé discuter avec les enfants de politique, hein, quand ils lui demandent qu'est-ce que c'est la droite et qu'est-ce que c'est la gauche. Il y a aussi Rudy Garcia, hein, qui réagit au fait que maintenant, eh bien, il y a un supporter à l'Élysée. Et puis, est-ce que vous avez vu, Marc, aussi cette vidéo qui a beaucoup tourné sur Twitter?
Quand il a le maillot.
Alors, il y a celle quand il a le maillot, mais le jour de la prise de fonction, non, même pas. Quand il marche sur le tapis rouge, donc il arrive à l'Élysée pour la première fois en tant que président élu, et il va vers Hollande, et là, ils ont changé les commentaires télé pour la musique de Van Halen. Et donc, jusqu'à ce qu'il disparaisse sur le perron, on entend la musique qui accompagne, voilà, Jump qui accompagne les joueurs.
C'est l'hymne de l'entrée de
quand il rentre sur le stade. Donc,
non, mais c'est ce qui est très intéressant, c'est que, alors, on n'aurait jamais pensé qu'un président de la Ve République est capable de dire ce genre de choses. L'impact est très fort parce que nombre de gamins qui vont s'intéresser à lui, rien que par rapport à ça. Qu'on aime l'OM ou qu'on n'aime pas l'OM, tac, le but est atteint. Je pense pas qu'il ment, parce que le fameux reportage qui a duré, qui était sur TF1, qui dure près de 2 heures sur lui, est super intéressant. On voit qu'il est vrai. Après, il y a des montages aussi. Mais voilà, il est déjà allé au stade. Mais je trouve que l'impact au niveau des gamins, des jeunes, c'est plutôt tiens, finalement il y a des gamins qui vont peut-être s'intéresser alors qu'ils sont jamais intéressés à la politique. Je ne dis pas qu'ils vont suivre le programme, mais tiens, le président il est plutôt jeune, lors de l'investiture il est monté en courant vite fait. Non, mais c'est tout le truc que les gamins peuvent voir, et en plus il aime l'OM, donc c'est un truc de communication très bien. Maintenant il a beaucoup de boulot, mais je trouve la symbolique plutôt sympa. On avait Sarkozy, le président Sarkozy, qui adorait le PSG, mais il s'est jamais proclamé comme ça. lui, c'est très franc, c'est très naturel.
Enfin, il l'a beaucoup montré. Non,
mais attends, on l'a beaucoup montré ou c'est la télé qui te le montrait chaque fois qu'il
parle? Ah non, il a beaucoup été au parc et puis
il
est très proche de Nasser. Non, c'est un vrai fan de foot.
Il n'hésitait pas à passer en zone mixte derrière les caméras.
Oui, c'est un vrai pour le coup. C'est un vrai fan de foot.
Mais François Hollande aussi, parce que lui, son club de cœur, c'était le Red Star. Et c'est un passionné de foot.
C'est plus anonyme.
Et qui lisait aussi tout autant.
On l'a vu une fois, parce que moi, je suis au Red Star. Je l'ai vu une fois. C'était avec, je crois, Hinalgo, il était là aussi. Enfin, ils étaient venus et c'était même pas dans leur vrai stade de Jean
Ils ont
Bouin.
Essayé, hein, de.
Non, mais le Red Star, un club ordinaire pour un président ordinaire. Voilà.
C'est beau. D'accord.
Mais... normal.
Et vous avez vu, il s'est rapproché un peu de tous les Français quand même, parce que si lui, il aime le foot, ah mince, ah merde, et tout. Brigitte, elle s'en fout en revanche, hein. Elle a dit, hein, ça ressemble un peu à beaucoup de familles françaises.
Enfin, je sais pas s'il nous écoute, mais puisqu'il est d'Amiens et qu'il aime le foot, il y a Amiens qui joue la montée en Ligue 1 à Reims vendredi, on l'attend au tournant. Parce que si jamais il n'y a pas un tweet ou une visite, moi, je lui pique Brigitte.
Je pense quand même que autour de lui, on s'occupera de lui.
Puisqu'on a vu quand même les images de l'entre-deux tours, quand même, lorsqu'il va jouer en banlieue parisienne avec des gamins. Moi, ce qui m'a ressorti, c'est quand même que là, il parle d'équipe, sport collectif, mais on l'a vu quand même dribbler les gamins comme des poteaux pour aller marquer son but tout seul. Il a peut-être oublié qu'il fallait une équipe, hein, comme un gouvernement autour de lui, quoi, à ce moment-là. On va voir si c'est un signe, hein, du joueur, le joueur comme le président ou le président comme le joueur.
La psychanalyse le ballon au pied.
Faut pas être dupe non plus. Il y a un peu de démagogie là-dedans, parce que tous les présidents,
pour l'image en tout cas,
tous les présidents se servent un peu du foot.
Bah, Jacques Chirac, on s'en souvient à la finale des Bleus.
Après, ils connaissent pas tous les règles ou les noms, donc là, c'est un peu plus compliqué.
Non, mais lui, il a joué aussi. On se souvient de Hollande dans l'équipe du Parlement. Hein, il jouait avec l'Assemblée nationale. Non,
Giscard,
c'est toujours mieux.
De Gaulle a joué.
Ne serait-ce que pour l'image, c'est toujours mieux d'avoir un type comme ça qui va dans les stades et qui aime le foot, qu'un mec un peu rustre, fermé, qui t'envoie
balader. Qui s'embête.
Voilà.
Moi, j'aimais bien Chirac en supporter, en président. On peut discuter,
bon,
mais
en tant
que supporter, moi, il me plaisait bien. Quoi.
Son baptême de l'équipe de France, là, ça va. Son baptême, disons, avec le football au président, ça sera la finale de la Coupe de France.
Le 27.
Là, le 27, parce que traditionnellement, ils sont là pour remettre le trophée au vainqueur, et ça sera donc.
On va voir d'ailleurs la réaction du public.
Saint-Germain,
voilà la réaction du public.
C'est un bon test, exactement. Hein, qui est important.
Ouais. Au Stade de France, en plus. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs. Merci aussi à Guillaume Ploquin et à David Finzel. Et on se dit, eh bien, évidemment, à demain.
Bonjour.